48 FM est en direct du Malzieu pour la 5e édition du festival Les Rencontres Musicales du Malzieu. Une heure d'émission pour tout connaître sur ce festival.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de 48 FM. Nous sommes actuellement en direct du Malzieu pour une émission consacrée aux 5e rencontres musicales. Un festival donc dédié à la musique classique, mais vous le verrez par la suite, pas seulement. Avec moi pour présenter cette émission, Jérôme de Radio Zema.
Oui, bonjour Julia.
Et Corentin, que vous connaissez déjà si vous êtes un fidèle de la radio, qui est avec nous à la technique. Donc avec nous dans cette première partie d'émission, Simon Milone, qui est un des co-directeurs artistiques du festival et qui est également violoniste.
Bonjour.
Avec nous également Nathaël, qui est donc bénévole sur le festival et habitant du Malzieu, si je ne me trompe pas.
C'est ça, bonjour.
Et Lucien Trébuchon, qui est donc président du comité des fêtes et conseiller municipal au Malzieu.
C'est ça, bonjour.
Bonjour. On va peut-être commencer direct dans le vif du sujet. Simon, comment est né ce festival ? Il me semble qu'à l'origine, c'était pour l'inauguration d'une place, un rapport avec le patrimoine.
Il y a effectivement un rapport avec le patrimoine très fort. C'est venu d'une manière assez naturelle où on était un groupe d'amis à faire des concerts dans la région et on est tombé concrètement amoureux de ce village et de cette ville et on a proposé un festival, en tout cas la commune qui a répondu favorablement. Et voilà, lié au patrimoine parce qu'on a vu cette place et en tout cas la municipalité a fait en sorte qu'elle puisse être disposée à pouvoir accueillir une manifestation culturelle et à pouvoir faire vivre en tout cas ces pierres. Et du coup, quand on vient au Malzieu, on y revient. Et du coup, on a travaillé pour monter cette première édition, puis la deuxième, la troisième, et là on est à la cinquième. Et un petit peu l'origine.
Il y avait un terroir propice à la musique classique au Malzieu, ou c'est vraiment quelque chose qui a été amené peut-être
Non, ça c'est. Enfin, moi j'étais à l'époque président d'office de tourisme et président du comité d'animation. Donc bon, musique classique au Malzieu, ça paraissait bon. Impossible, un peu utopique sur le fond. Et puis, le problème, c'est qu'il faut essayer. Et bon, ils ont été assez courageux pour essayer. C'est vrai que la mairie a favorablement bien évolué sûr pour que ça puisse se réaliser. Et puis, quand on s'est jeté à l'eau, on a dit, mais c'est un pari, c'est un challenge. Et puis, finalement, ça s'est vraiment bien passé, parce que je crois qu'il y a la meilleure des raisons. C'est que les musiciens, non seulement sont de qualité, ont proposé des spectacles de grande qualité, et puis surtout qu'ils ont mis l'esprit. Parce qu'on est dans un petit village, grande musique, c'était plutôt inquiétant pour certains. Ça veut dire des fois un peu, presque je dirais, le luxe ou des choses comme ça. Et puis c'est vrai qu'au départ, lentement, mais sûrement, même les gens du Malzieu qui ne sont pas habitués, moi le premier d'ailleurs, à la musique classique, ben on a vite pris goût à la manifestation, maintenant pris goût à la musique. Et puis bon, maintenant avec ces musiciens, c'est des gens du Malzieu. On parle de patrimoine au Malzieu, mais maintenant ils en font partie. Donc tout va bien, il faut souhaiter que ça continue, qu'ils gardent cet état d'esprit, qu'ils gardent ce moral et que nous on arrive à suivre, parce que bon, c'est pas toujours facile, parce que c'est quand même un peu lourd dans l'organisation. Mais bon, tant que, comme on dit, tant que ça marche, les bénévoles, vous savez, ils sont faciles à convaincre. Quand ils participent à quelque chose qui marche, c'est beaucoup plus facile.
Donc voilà, par rapport à cette idée aussi de patrimoine, c'est vrai qu'il y a, les médiévales au Malzieu, hein, depuis quelques années aussi. C'est vrai que, est-ce que les deux festivals ne sont pas en cohérence refaire revivre le passé?
C'est un peu la même idée, en fait, au départ. Quand on a lancé les médiévales, quand j'ai lancé l'idée, moi, au départ, c'était un peu de dire qu'il ne se passe pas grand-chose au Malzieu. Un constat un peu douloureux, tout le monde le disait, donc c'était sûrement vrai. Le village est magnifique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on a un qui est sur les médiévales parce que le site s'y prêtait, parce qu'il y avait une certaine tendance à avoir des choses comme ça, historiques et autres, style Puy du Fou, tout ça. Donc on a raisonné un peu facilement en disant on va faire une manifestation au mois de mai. Déjà pour dire qu'il se passe quelque chose au mois de mai, parce qu'en général c'est juillet, août. Donc on a volontairement choisi le mois de mai parce que c'est un peu avant saison. Donc c'est un peu plus facile parce qu'il ne se passe pas grand chose à cette époque-là. Pour les troupes, c'est un peu plus facile aussi à cette période-là. Et donc, pour le même objectif de patrimoine, on a démarré les médiévales qui, depuis 6 ans maintenant, qui grossissent chaque année, des fois à un rythme un peu rapide, et qui sont un succès quand même aujourd'hui populaire et autres, reconnu, mais ça va exactement dans le même sens, quoi. C'est vraiment pour le Malzieu et pour faire connaître le Malzieu, le faire vivre. Voilà. Je crois qu'on est dans la même philosophie.
Absolument.
Alors pour en revenir donc à ces rencontres, vous parliez tout de suite là de grande musique. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition? Qu'est-ce que c'est la musique classique?
La musique classique, alors comment donner une définition? C'est toute une histoire. C'est un héritage de plusieurs siècles d'une musique qui a été transcrite. D'accord, on est passé de la musique dite musique orale et les compositeurs se sont mis à la transcrire et du coup s'est développée une histoire de la musique assez riche et par l'histoire du concert au 19e, il y a tout un héritage qui fait que peut-être ces deux mots musique classique héritent d'un certain élitisme, je sais pas, enfin en tout cas c'est réservé aux salles de concert, c'est réservé à un certain public. Je pense que nous on essaye maintenant de faire le lien avec un lieu, avec un patrimoine et d'amener aussi ce mot classique, de l'ouvrir à d'autres termes et en tout cas de l'ouvrir à beaucoup de public.
J'avais une question sur existe-t-il en fait des codes, des règles tacites ou non dans la musique classique sur la durée des œuvres en fait, parce que ce qu'on peut se rendre compte aussi bien souvent, c'est qu'il y a vraiment des durées qui peuvent être très très différentes, ainsi que leur par rapport à la structure des compositions. Et à ce sujet, on peut notamment évoquer la fameuse symphonie numéro 8 de Schubert, dite inachevée, qui notamment est au programme de la journée de ce soir.
Il y a énormément, la forme est très importante dans la musique classique. Une symphonie, elle est construite en plusieurs mouvements, et plus on a évolué dans l'histoire de la musique, plus ça a été. Chaque compositeur a un petit peu défini leur forme. Il y avait une forme classique, Mozart, Haydn, on était souvent en 3 mouvements, 4 mouvements, parce qu'il y avait l'apparition du menuet. Donc là, on va un peu dans le détail. Ce qui est assez fantastique avec cette symphonie inachevée, c'est qu'elle a été inachevée, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur le mouvement lent. Et on n'a pas de scherzo, on n'a pas de menuet, on n'a pas de finale après. Et
ce qui peut laisser tel libre cours.
C'est-à-dire que ça laisse libre cours à plein d'imagination, mais c'est inachevé. Et c'est-à-dire que ça laisse une émotion complètement intense. Par contre, la sérénade de Brahms, on est vraiment dans une forme brahmsienne, d'un Brahms très jeune, mais où on a 5-6 mouvements. Donc c'est vraiment la forme, elle peut varier selon les époques et les compositeurs.
Ouais, parce que justement aujourd'hui on voit quand même par exemple en radio des formats très
courts,
très standardisés, donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément cette
mais à l'époque les formats étaient complètement différents selon les époques et on s'aperçoit les programmations maintenant au 19e, 18e, 19e, qu'il pouvait y avoir des formats de concerts très longs, donc c'était les gens mangeaient au milieu, il y avait d'autres, le rapport au temps musical était un peu différent, ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, mais ça a évolué beaucoup, en tout cas.
Alors, par rapport au rapport qu'a le public aussi, par rapport à ses œuvres, alors je voulais citer peut-être deux exemples pour montrer le lien qui peut exister, le lien fort avec le cinéma, notamment. Alors, je cite pour exemple Astor Piazzolla, dont l'œuvre Suite Punta dell'Este, je sais pas très bien si je l'ai dit correctement, a été reprise, légèrement modifiée tout de même dans le film L'Armée des Douze Singes en 95 de Terry Gilliam, ou encore un autre exemple qui personnellement m'avait pas mal marqué, c'est Richard Wagner, que l'on retrouve dans le drame Mélancolia de Lars von Trier en 2011. Quel est selon vous, c'est là encore c'est peut-être un petit peu compliqué à répondre, mais quelle est selon vous la place de la musique classique dans le paysage musical et artistique contemporain? Et puis au-delà de ça, est-ce que le grand public peut-être ne sous-estime pas un peu sa connaissance de la musique classique aujourd'hui?
Et c'est évident que la musique, la forme en tout cas de l'orchestre symphonique a été utilisée depuis plusieurs siècles et beaucoup au 19e, développé énormément au 19e, et Wagner a été un des génies pour développer cet instrument-là qui est l'orchestre, et après beaucoup de compositeurs au 20e l'ont utilisé pour commencer à mettre en musique des images, à mettre en musique les premiers films muets, à mettre en musique... Donc il y avait vraiment à l'époque même des orchestres qui jouaient en live sur des films. Et du coup, la musique de film s'est énormément développée. Mais toutes les personnes qui vont au cinéma, elles ont un orchestre symphonique dans l'oreille, puisque c'est de la musique, c'est la musique de film. Et Piazzolla est un peu un exemple, parce que sa musique a été pas mal utilisée pour la musique de film. Mais les gens sous-estiment, je ne sais pas si c'est une histoire de sous-estimer, mais en tout cas n'ont peut-être pas forcément tous conscience qu'ils ont un contact avec la musique dite classique et l'instrument de l'orchestre symphonique très très régulièrement, en allumant la télé, en allumant la radio, tout, et puis même toute la musique de la chanson française, la variété, le jazz, il y a des orchestres symphoniques. Ouais,
ici ça peut être à l'occasion de ces rencontres, l'occasion d'approfondir finalement voilà, des choses qu'on a déjà quand même entendues.
Oui. Et justement, pour vous parler de Piazzolla, c'est un peu la programmation de samedi soir. On fait une sorte de concert clé en main, ce qu'on appelle un concert où on va expliquer, en tout cas au public, comment c'est construit, quels sont les instruments que les compositeurs ont choisi d'utiliser, pourquoi Bernstein, ça sonne comme ça, pourquoi la musique de Piazzolla, elle sonne comme ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tient, en tout cas, à sensibiliser le public pour pouvoir profiter de l'écoute et pouvoir avoir quelques clés d'écoute le soir au concert.
Mais on peut venir quand même en étant novice en la matière, écouter les premiers concerts. On ne sera pas.
Mais évidemment.
On ne sera pas perturbé, on ne sera pas tout seul.
Non. Voilà. Moi, j'étais novice au début, maintenant je suis fan, c'est le cas de dire. Bon, la musique classique, j'ai connu surtout par les musiques de films. Mmh. Quand on aime le cinéma, tout ça, bon, on a l'occasion de la découvrir. En plus, c'est souvent très, très joli. Mais je suis passé à la deuxième étape maintenant. Bon, d'abord, bouquinant un peu tout ça, là. Et puis maintenant, bon, je m'aperçois que j'en sais beaucoup, alors que j'étais vraiment novice, quoi. Complètement novice.
Et vous, Nathalie, du coup, vous êtes arrivée dans l'association, sur le festival, dès le départ. Vous étiez mélomane, musicienne.
J'ai toujours aimé la musique et j'en ai pratiqué quand j'étais gamin. Donc, je suis un enfant du Malzieux, hein, j'ai grandi ici. Alors j'étais pas à la première session, mais c'est justement le bouche à oreille qui a fait que je me suis invité sur la deuxième. C'est un ami qui m'a dit il y a un groupe de copains qui ont fait de la musique au Malzieux, c'était extraordinaire. Et il m'a cité d'ailleurs, on parlait de musique de film, un passage de la liste de Schindler qui l'avait particulièrement touché. Et donc il m'en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et justement de cette rencontre qu'il y avait, cette première rencontre donc entre ce groupe d'amis et le public. Donc pour moi c'était absolument évident de participer pour la deuxième session et depuis c'est aussi une évidence d'en louper aucune. Donc c'est avec grand plaisir que je vais participer et puis du coup aussi de donner des coups de main quand on le peut, ça peut être donc à la billetterie ou d'autres actions, beaucoup de relais aussi de pub hein, dans les réseaux sociaux, voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment très attaché à ce mot rencontre parce qu'il y en a plusieurs en fait. Simon parlait de la rencontre entre ce premier groupe d'amis et puis le village. Ça, on l'a senti très très fort quand on était dans le public au départ. Il n'y avait pas de chef d'orchestre, on les sentait communiquer entre eux. C'était extraordinaire, même sans connaître la musique, de voir cette communication, de voir que c'était un groupe d'amis. Et du coup, même si on ne connaissait pas la musique, ils nous embarquaient dans leur voyage. Et rapidement, ils se sont mis, ou on s'est tous mis à niveau pour être dans cette sensibilité de ce partage dans l'instant. Donc c'était très touchant. De vivre ça. Et puis au fil des années, le violon est devenu Simon, la clarinette, voilà, c'est devenu Damien, le contrebassiste est vide. Le hautbois, pardon, j'ai dit hautbois. Donc le contrebassiste, c'est Benoît, et ainsi de suite, Rémi à la flûte. Et donc, on a rencontré le groupe. On reste sur cette rencontre.
C'est toujours les mêmes personnes donc qui viennent plus ou moins les mêmes artistes du coup qui reviennent chaque année.
Il y a un noyau de fidèles qui sont là tous les ans et on essaye aussi de chaque année avoir des artistes entre guillemets invités, mais qui rejoignent le groupe et qui sont proches en tout cas de tous ces fidèles. Fabien, par exemple, Fabien Boudot, qui est violoniste, très bon ami et violoniste à l'Orchestre de Paris, qui nous rejoint pour cette première édition avec qui est le violon solo du concert d'ouverture. Voilà, on essaye de faire évoluer aussi le groupe pour pouvoir enrichir, que ce soit humainement ou artistiquement.
D'accord, et bien du coup c'est une programmation un peu collégiale entre tous les artistes, ou c'est plutôt vraiment Damien et Simon qui font...
Ça part en tout cas de nous deux, c'est nous deux qui donnons les grandes, enfin on va dire les principales lignes de la programmation. Après on laisse une grande place à des artistes, par exemple là me vient le fait que pour la dernière soirée on a énormément discuté avec Grégory Daltin, accordéoniste, fidèle du festival, qui nous donne des pistes sur ce type de musique. Pour la soirée avec les acteurs, on a évidemment travaillé avec eux. Donc, je dirais, c'est une sorte de programmation collégiale, mais où on donne quand même nos directions, en tout cas nos grandes directions thématiques.
D'accord.
Je crois qu'on va faire un point un petit peu plus précis donc sur la programmation, alors sur ces premiers jours hein, déjà. Donc il y a prévu Schubert et Brahms pour cette première soirée. Alors Schubert, on va présenter brièvement parce que c'est un petit peu compliqué d'être exhaustif, on va dire. Schubert déjà qui est quand même donc un compositeur autrichien mort très jeune hein, à l'âge de 31 ans, mais qui pour autant a laissé une empreinte quand même assez importante, puisque pas moins d'un millier d'œuvres dont 100 à peu près, une centaine ont été publiées de son vivant. La majeure partie donc sont des leaders, des poèmes germaniques chantés par une voix, accompagnés par un piano ou un ensemble instrumental, des danses également, des compositions pour piano à quatre mains. Mais on y retrouve aussi notamment ces deux œuvres qui seront présentées ce soir, le Quatuor à cordes numéro 13 en la mineur Rosamund.
Et puis, c'est une ouverture. On va faire, c'est l'ouverture de l'opéra Rosamund. Effectivement, excuse-moi, je vous coupe.
Non, mais justement, je voulais un mot justement sur les compositions.
Déjà, la thématique du concert de ce soir, c'est que c'est un programme symphonique que l'on fait en formation de double quintette à cordes, de violon, alto, violoncelle, contrebasse et quintette avant, flûte au bois, clarinette au bois, flûte au bois, cor, clarinette, basson et percussion, donc timbale. C'est-à-dire qu'on amène dans l'église du Malieu, où peut-être un orchestre symphonique aurait du mal à se placer, des transcriptions d'œuvres symphoniques. D'accord. Donc on a la chance d'avoir David Walter, qui est un grand arrangeur, qui arrive en tout cas à arranger ce répertoire-là. Et on a fait le choix du Schubert orchestral. C'est-à-dire que Schubert est un compositeur emblématique de la musique de chambre. On y retiendra la truite, il y a des quatuors à cordes incroyables. Et dans cette ouverture Rosamund, qui est quand même assez connu, il a développé, enfin il a réutilisé des thèmes pour des formations de quatuors à cordes, pour d'autres pièces à lui. Donc c'est pour ça qu'on connaît aussi le Quatuor Rosamund. Voilà, c'est une ouverture que l'on va jouer ce soir, et on va jouer aussi donc cette symphonie inachevée qui est assez incroyable, et on va laisser place à la musique symphonique de Brahms sur la deuxième partie. Donc c'est le romantisme allemand, le voyage à la Schubert. Un univers extrêmement symbolique aussi de cette formation de l'orchestre.
Alors justement, on va faire une première coupure musicale où on va écouter le premier mouvement de la sérénade numéro 1 de Brahms en ré majeur. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Et nous voilà de retour dans cette émission en direct des rencontres musicales du Malzieux. Et donc dans cette seconde partie, toujours avec nous donc Simon Milon, qui est co-directeur du festival, des rencontres. Et donc nous ont rejoint Audrey Sade, qui est donc comédienne et musicienne, et Stéphane De Bruyne, qui est comédien.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, donc on va présenter rapidement votre travail aussi à tous les deux. Donc Audrey Sade, vous êtes alors vous avez un parcours un petit peu en deux parties, donc musicienne de formation, donc diplôme notamment de fin d'études de harpe classique, voilà, petit vrai diplôme de harpe classique, mais aussi le chant lyrique. Qu'est-ce qu'on peut noter également, le clavecin. Un répertoire vraiment assez large aussi au niveau de la musique. Et puis alors je sais pas si vraiment je peux dire en parallèle de ça, ça s'est fait peut-être après ou dans le même temps, mais la partie comédie.
Alors ensuite. Moi j'ai commencé par la musique et puis ensuite je suis venue au théâtre. Et donc moi je me suis formée en comédia dell'arte et comme Stéphane. Et en fait dans ce genre théâtral, c'est un genre qui mixe tous les arts. En fait en comédia on fait aussi bien du théâtre que du chant polyphonique, de l'acrobatie, du mime, de l'escrime. Donc en fait, dans ma formation théâtrale, on a fait tout ça. Et ensuite, ça m'a beaucoup plu de pouvoir justement mixer, mélanger les arts et de mettre un savoir-faire au service du théâtre en plus. Et donc, pour moi, c'est ça ce que j'aime dans les projets théâtraux, c'est de pouvoir mélanger les disciplines.
Ouais. On peut rappeler ou expliquer brièvement, mais la comédia dell'arte, parce que c'est quelque chose quand même que vous avez vraiment en commun avec donc Stéphane De Bruyne.
Oui, tout à fait, oui. Vous voulez un petit topo sur la comédia dell'arte, c'est ça?
Oui, voilà, assez, assez brièvement, forcément, on ne pourra pas...
Bon, en une heure ou deux, je vais vous faire
ouais,
ça.
Oui, d'accord, très bien.
Rapidement.
Merci, Stéphane.
C'est parfait. Alors, la comédia dell'arte, c'est un théâtre qui vient de la Renaissance italienne, donc voilà, qui trouve son origine au XVIe siècle en Italie, qui a eu énormément de succès, et donc qui a voyagé à travers toute l'Europe, et qui a inspiré tous les grands auteurs de comédie, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne. Comme l'a précisé Audrey, c'était un théâtre qui mélangeait tous les arts, donc le chant, le madrigal, la musique, l'escrime, la pantomime, avec aussi une valeur littéraire, parce qu'il y avait des poètes qui écrivaient, et les comédiens mixaient tout ça. Ils pouvaient se voyager dans toute l'Europe, et il se trouve qu'en France, ça a toujours été une terre d'accueil pour la comédia dell'arte. À Paris, il y avait toujours des grandes troupes de comédias, et notamment Molière, dans sa jeunesse, quand il est arrivé à Paris, il a partagé son théâtre avec Tiberio Fiorelli, qui était le grand Scaramouche, qui était le grand acteur italien de comédia dell'arte, et Molière a puisé beaucoup dans son théâtre par rapport à la comédia. Donc c'est vraiment un lien entre le théâtre italien et ensuite le théâtre français. Et donc nous, c'est vrai qu'on vient de cette école-là, on a été formés dans cette école-là, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on va dire, c'est du théâtre populaire qui doit plaire à tous, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, toute génération, toute classe sociale confondue, et qui peut se jouer sous toute forme et toute condition.
Justement, les enfants, les adultes, on verra sur les ateliers, ça touche un petit peu tout le monde cette année. Je vais juste finir pour vous présenter un petit peu aussi, hein, Stéphane De Bruyne, puisque comme donc Audrey Sade, vous touchez aussi, que ce soit à la musique, au niveau du chant classique, vous êtes en baryton, ça s'entend un petit peu, et puis en musique également avec la guitare, et puis aussi on a vu, alors peut-être tout à l'heure, un petit peu d'un escrime théâtral, ce sera donc une partie voilà, peut-être du spectacle aussi.
Il y aura des combats, il y aura des polyphonies, et il y aura de la musique. Alors là, la partie musicale, elle va être interprétée par les musiciens qui sont ici présents au Malzieux. Après, ça nous arrive, nous, effectivement, aussi de nous accompagner, mais on n'a pas le talent des musiciens, surtout moi en tout cas, des musiciens présents. Donc c'est vrai que là, les spectacles, on les adapte vraiment pour avoir un partage entre théâtre et musique, pour qu'il y ait vraiment des grandes plages de respiration, pour pouvoir... laisser entendre cette musique. Et cette année, effectivement, pour la première fois, on va aussi avoir deux polyphonies où on va être tous ensemble et aussi un chant solo d'Audrey dans le spectacle.
C'est ça qui est formidable, en tout cas, dans l'élaboration de ce festival, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec d'autres formes d'art. Ici, le théâtre, la comédie d'arte, de faire une programmation en lien vraiment avec le texte, avec ce qui se passe sur la scène. Et voilà, c'est ce qui nous anime en tout cas tous de pouvoir remonter ces éditions-là.
Alors, si j'ai bien compris, en plus, c'est une programmation originale dans le sens où elle est spécifique aux Malzieux. On ne verra pas ça ailleurs, quoi.
Non, on est très... ça nous tient à cœur d'avoir l'aspect création. C'est-à-dire qu'on a, créé beaucoup de spectacles. Enfin, chaque année, on crée des spectacles. Beaucoup sur la thématique du patrimoine, avec des lettres de poilu vraiment du Malzieux qu'on a mis en musique avec un programme symphonique français. Là, on a fait des spectacles sur la bête du Gévaudan. Et cette année, c'est des spectacles que Audrey, Stéphane et André ont déjà beaucoup joué, mais l'aspect création se fait vraiment dans la programmation musicale et dans l'adaptation des spectacles pour le Malzieux. Donc ça sera la première fois que ces spectacles dans cette forme-là sera joué, en tout cas vendredi.
On les a adaptés et transformés pour s'intégrer dans une programmation musicale.
Voilà.
D'accord. Et donc, il me semble que c'est samedi. Vous animerez tous les deux un...
Vendredi,
excusez-moi. Donc avec une troisième personne, un atelier de création, entre guillemets, de spectacle, c'est bien ça?
Bah oui, enfin je vais laisser la parole à Stéphane, mais c'est
chaque
ça, oui.
Année, en fait, c'est vrai que c'est une demande du festival et qui amène une touche poétique. En fait, on a réussi chaque année dans les spectacles à intégrer quelques enfants en faisant un travail avec eux l'après-midi par rapport, on va dire, au thème qui était abordé dans le spectacle. Et c'est vraiment à chaque fois très apprécié de la part des enfants, de la part du public. Donc là, on va faire un atelier l'après-midi, puisque les spectacles qu'on va présenter le soir seront autour du conte, du masque, de la comédia. On va faire un atelier autour d'improvisation avec les enfants. Et entre les deux spectacles, il y aura un entracte. Et on va présenter ce travail sous une forme d'improvisation dirigée avec l'accordéon qui va nous accompagner.
D'accord, très bien.
On va pouvoir parler aussi d'autres ateliers hein, donc au cours de la semaine. Donc il me semblait aussi, alors Simon, je reviens vers vous pour parler de ça sur l'EHPAD, hein, donc leur milieu hospitalier. Ça s'est produit un petit peu en amont.
On fait toujours ça en début de semaine. Voilà. C'est un moment qui nous tient vraiment à cœur parce que. C'est important d'avoir cette rencontre avec le public. Cette rencontre avec le public, elle se passe sur plusieurs formes. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un public qui n'a peut-être pas l'habitude de venir au concert classique. On va rencontrer un jeune public pour le sensibiliser. On va rencontrer un public pour lui expliquer, en tout cas, les coulisses des œuvres avec le concert clé en main. Mais aussi, on va rencontrer un public qui ne peut pas se déplacer au concert. Et ça, c'est important parce que les rencontres, le festival doit rayonner sur tout le public qui est présent au Malzieux. Et donc, chaque année, on va faire un concert dans cette maison, dans l'EHPAD Hubert de Flers du Malzieux.
J'ai l'impression que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur durant ces rencontres. C'est vraiment intégrer le public, aller au plus près de lui, lui proposer des choses, alors pas simplistes du tout, mais en tout cas les rendre accessibles des choses qu'on pourrait imaginer compliquées, etc. Et dans cette idée-là, vous proposez aussi un atelier, entre guillemets, vous appelez ça « concert clé en main ».
Ouais, c'est un mot qu'on a trouvé, ça se fait de plus en plus. On peut appeler ça un concert pédagogique. On a trouvé bien d'appeler ça clé en main dans le sens où ils auront les clés d'écoute, ils auront, après avoir assisté à ce concert, ils auront découvert en tout cas un petit peu les coulisses de comment sont écrites chaque œuvre, pourquoi Piazzolla, ben, on reconnaît que c'est Piazzolla quand on l'entend, pourquoi on écoute du Bach, ben, on se dit ben, c'est pas Bernstein, pourquoi le mambo de Bernstein, ben, on le reconnaît tous. Voilà. Et ça, on a envie un petit peu de pas seulement garder pour nous toutes ces informations, mais de les partager aussi avec le public qui va venir le soir.
Et vous avez, c'est pas la première fois que vous faites ce genre d'atelier ?
Alors, ce concept de concert clé en main, c'est la première fois.
D'accord.
C'est une spéciale 5e édition. On fait des ateliers qui varient. On a fait des ateliers de tango, ouverts à tout public. On a fait sur l'improvisation. On fait là un atelier musical un peu sur le continu. On varie chaque année un peu la thématique. On varie le public qui vient à ce type d'atelier. Mais là, c'est vraiment un concert. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de participatif. C'est vraiment l'écoute d'un concert expliqué, vraiment de l'intérieur.
D'accord, donc j'ai peut-être mal compris, mais en fait, ils vont voir deux fois le concert, une première fois...
Alors, ils ne vont pas voir deux fois le concert, ils vont assister, il y aura tous les musiciens qui seront installés, ils vont assister à l'écoute de certaines œuvres.
D'accord.
Et on va décortiquer à l'intérieur et on va vraiment commenter un petit peu comme... Enfin, il y a un grand artiste, Jean-François Zugel, qui fait ça à la télé. Sur... Voilà, c'est vraiment essayer de sensibiliser le public et leur donner, en tout cas, des clés de pouvoir apprécier et de comprendre, peut-être d'aller plus loin, en tout cas, dans le processus de l'écoute.
C'est, cette interaction avec le public, elle est, on imagine, importante aussi pour vous, Simon Milhon, pour, on va dire, l'attirer voilà, peut-être vers une musique classique voilà, qui pourrait parfois justement être difficile à intégrer dans leur écoute.
C'est une mission, moi, je trouve qu'on a en tant qu'artiste, de sensibiliser, mais d'aller vers tous les publics. C'est-à-dire que... d'expliquer, enfin pas d'expliquer parce qu'on n'a pas expliqué, on a juste besoin de dire au public venez parce que vous allez prendre du plaisir à découvrir ce monde qui est facile d'accès et on le voit, Lucien c'était tellement touchant tout à l'heure quand il parlait du fait qu'il n'avait jamais assisté, enfin qu'il ne connaissait pas ce monde musical et qui chaque année revient et ce soir il va écouter L'Inachevé et la Sérénade de Brahms qui sont des pièces qui sont a priori pas forcément évidentes mais voilà, les gens vont convoquer en tout cas du plaisir à l'écoute de ces concerts, j'espère. Mais c'est vraiment notre mission, en tout cas.
Et alors toujours dans cette idée d'interaction, je reviens vers vous, donc Audrey Sade et donc Stéphane De Bruyne. Sur les ateliers que vous animez, il y a donc la possibilité en fait au public de participer et ensuite de monter sur scène, hein, si je ne me trompe pas. Voilà,
voilà c'est ça.
Ouais. Est-ce que ça, c'est une, ça peut être une difficulté, enfin je veux dire, bon, sur une journée comme ça et après ça...
Bah, on va dire que c'est un challenge. Et c'est très stimulant pour nous de justement prendre ce risque-là. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je crois, quand on avait fait le spectacle de pantomime, on avait décidé d'intégrer les enfants sur scène. Donc on avait 1h30 pour tout préparer et à la fois de, faire, de leur expliquer ce qu'il fallait faire et ensuite de le faire en musique et ensuite le soir de les faire revenir, de les maquiller, de les faire monter sur scène au bon moment, qu'ils soient dans les coulisses préparés. Et c'est vrai que c'était une belle aventure et c'était très touchant pour nous et je pense très amusant pour eux.
Là, ce sera la combien de fois que vous le faites en fait peut-être la deuxième fois cet atelier-là.
Cet atelier-là, non, ça doit faire
la quatrième,
quatrième fois.
Ouais, chaque année, il y a un peu une thématique différente sur le théâtre.
Et vous avez des jeunes qui reviennent chaque année.
Oui, on a des fidèles, des futurs comédiens qui sont impatients de nous retrouver.
Mais vous imaginez quand même de se retrouver sur scène. Pour un enfant qui vient, qui est en vacances au Malzieu, qui se dit tiens, je vais aller à l'atelier à la salle des fêtes. Et puis là, le soir, il se retrouve sur scène et il vit cette émotion-là. Enfin, moi, ça me. J'aurais bien aimé avoir.
Non, c'est une idée très originale.
Enfin, je trouve que c'est une... On a eu des beaux retours, en tout cas, de ce type d'expérience.
Ouais, justement, par rapport à ces retours, est-ce que depuis. Donc là, on a la 5e édition, est-ce que vous en avez? Et aussi, par rapport à la fréquentation, est-ce que ça continue?
Je touche du bois, on n'est pas encore ce soir.
C'est vrai.
Non, on est très heureux parce que le public est présent. Enfin, en tout cas, si, moi, je trouve que si on... La grande motivation pour aussi travailler sur ce festival, c'est effectivement qu'on fasse une programmation, on propose quelque chose, mais que le public est présent. Et on a vu les préventes, ça fait tellement plaisir de voir les gens qui viennent prendre les places, qui nous reconnaissent, hein, on a pu se voir, on a découvert le programme, est-ce qu'il y a Stéphane Audrey, est-ce que, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est de la chaleur humaine, et moi, c'est, enfin, quand je suis mois de décembre à 22h et que je suis en train de faire les programmations musicales et que je me dis, tiens, il pleut à Paris, je me dis, mais ça sera quand même tellement émouvant de voir l'église pleine et la place pleine, mais enfin, voilà, c'est ça qui nous pousse.
Bah, c'est vrai que là, niveau aussi conditions météo, on est pour l'instant bien lotis.
Tous du bois, mais en principe, c'est bon.
Ouais. Bon, même si, on va dire, bon, pour ce soir, c'est pas vraiment la question.
Non, c'est plutôt pour vendredi, samedi, mais ça sera, il fera très très beau.
C'est un festival où il y a beaucoup de passion et d'amitié. Nous, on est toujours contents de revenir chaque année. C'est vrai que les lieux sont magnifiques, aussi bien les concerts à l'église que les spectacles et les concerts à Place des Ursulines. Et effectivement, nous, on est là depuis 4 ans et chaque année, il y a eu plus de spectateurs et on sent vraiment qu'il y a un engouement. Donc, faut vraiment venir voir les concerts. Vous avez des musiciens, une qualité incroyable. Et c'est très 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 beau moment, très beau festival. Bravo encore à Damien et à Simon pour tout le travail qu'ils font pour ça.
Est-ce que, par exemple, à l'issue des spectacles, des représentations, etc., les spectateurs peuvent venir à la rencontre des artistes pour échanger sur ce qu'ils ont vécu
Ils peuvent nous offrir des cadeaux, des présents.
Voilà, donc Stéphane lance un appel.
Déjà on a un principe qui en ouvre les répétitions, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont venus un peu écouter les répétitions. Ce matin, à l'église, on a fait la générale. Les gens viennent découvrir ce qu'on va proposer. Et on fait un pot, ce soir on va faire un pot après le, concert. Où, ça a été la première fois que j'ai discuté avec Nathalie, sur, c'était après le pot du premier concert. On fait un pot de clôture aussi. Et du coup, c'est assez sympathique parce qu'il y a les musiciens, il y a Grégory, il y a Sébastien le percussionniste qui font un peu ce qu'on appelle les table-bœufs, un peu, ils font l'improvisation. Il y a un côté très sympathique, très chaleureux.
Et nous, en off, tout à l'heure, on a mangé avec tout le monde et c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance, et joyeux rond.
Ouais, effectivement, on pouvait voir ça. Alors, j'en parlais aussi sur donc ce lieu, déjà, hein, pour ces premières journées de concert, cette église du Malzieu. Par rapport à cette programmation, déjà, hein, les trois compositeurs essentiels de ces premiers jours, donc Schubert, Brahms, et puis, bien sûr, Bach, est-ce que, bon, déjà, je me dis, ce choix-là pour l'église, il est peut-être déjà acoustique, mais il est assez, enfin, il me semble évidemment assez symbolique aussi, peut-être par rapport à la je vais arriver à la constante religieuse qui est quand même assez présente, notamment dans la musique de Bach.
Oui, ben Bach, c'est un compositeur qui a énormément écrit de cantates de passion. Enfin, c'est-à-dire que la religion avait énormément de force dans sa proposition de composition. Et donc, du coup, c'était une évidence de faire ce programme à l'église. Et c'est un programme qui est... Il y a des œuvres très typiques de Bach, type le double concerto, concerto pour violon au bois. Mais on a fait le choix aussi de faire des œuvres vocales transcrites transcrite instrumentalement, parce que c'est une musique qui est tellement bien écrite, qui est tellement aussi qui symbolise ce compositeur et cette foi dans cette manière de composer, que ça nous paraissait évident de faire toute cette programmation là très vocale aussi.
Justement, vocalement, il y a aussi parfois des passages assez sombres, on peut dire, dans la musique de Bach, notamment sur, je crois, alors je ne sais pas quel est le style de composition, je crois que c'est Ishab Genug, c'est ça, voilà.
C'est de la musique assez, enfin sombre, moi j'aime pas trop ce terme, parce que c'est, enfin si, ça peut être sombre, c'est relié
sur les paroles peut-être.
Voilà, sur les paroles, c'est relié quand même à une thématique assez... on n'est pas forcément dans la gaieté. Et je trouve que demain, en tout cas, ce qui nous tenait à cœur, c'est de faire un concert présenté. C'est-à-dire qu'il y a deux musiciens qui vont présenter, qui vont vraiment expliquer aussi l'œuvre de Bach et pourquoi il a composé ses œuvres et quels sont les contextes. Donc d'accord. Ça, c'est aussi une grande part de cette soirée.
Alors ben justement, on va faire une coupure musicale où on va écouter Concerto pour violon de Bach. Voilà, un extrait. Thank you. nous voilà de retour dans la dernière partie de cette émission en direct des rencontres musicales du Malzieu. Donc toujours avec Simon Milone, donc le co-organisateur du festival. Voilà, quand on applaudit. Et alors, nous ont rejoint, on est très nombreux dans notre studio de fortune d'aujourd'hui. Donc avec Benjamin, Mathieu, Fabien, Hélène et David, donc, qui sont musiciens. Donc on peut faire un petit coucou.
Bonjour
à vous tous.
Voilà, et donc deux bénévoles du festival, Ghislain et François. Et bon, on va peut-être commencer avec les artistes.
Oui, ben c'est vrai que maintenant qu'on les a voilà, sous la main, donc, on va peut-être vous demander un petit peu voilà, un par un, parce qu'on n'a pas forcément mémorisé tous les instruments qui vous caractérisent. Donc déjà, donc là, autour de la table, Benjamin, pour commencer.
Oui.
Oui, voilà. Bon, l'instrument.
Alors moi, je suis bassoniste. Donc c'est un instrument à vent et c'est l'instrument le plus grave de la famille des bois.
D'accord. On continue donc peut-être avec Hélène.
Oui, alors moi, je suis altiste. Et l'alto, c'est un instrument à cordes, souvent le plus méconnu, à tort, parce que c'est très beau. Et c'est celui qui est... C'est un gros violon, disons, pour situer. Un beau, mais gros violon.
Il y a des beaux gros.
Peut-être un petit peu plus lourd, du coup, à porter.
Plus lourd et plus grave, voilà. Ouais. Dans la tessiture, ça se situe entre le violon et le violoncelle.
D'accord. Mathieu ?
Oui, moi je suis clarinettiste, donc c'est l'instrument à côté du basson, un instrument à vent, voilà, de tessiture médium, avec un son très clair, et très beau aussi, voilà.
Évidemment.
Fabien ?
Ben moi je suis violoniste, alors je vais peut-être pas vous présenter le violon, parce que quand même, à peu près tout le monde connaît, voilà, je suis violoniste.
Très bien, alors peut-être David ? Ah, c'est encore du violon, David, voilà. Très bien.
Aussi.
Alors ben, peut-être des questions comme ça qu'on peut se poser effectivement vu que vous êtes assez nombreux, les difficultés qu'on peut imaginer en fait sur scène déjà peut-être à vous écouter les uns les autres, bon vous n'êtes pas à votre premier concert mais c'est quoi, comment ça se passe une fois sur scène, quels sont les principaux peut-être on va dire enjeux, bon, à part effectivement jouer le morceau.
Ben, en fait, c'est assez particulier parce qu'on fait, surtout ce soir, c'est un programme qui, normalement, se joue en grand orchestre, où là, on est donc 12, c'est ça, sur scène ? Voilà, donc là, ça s'apparente plus à de la musique de chambre, c'est-à-dire vraiment, on n'a pas de chef d'orchestre. Autant un orchestre est une énorme machine, une belle mais énorme machine, avec un chef d'orchestre, une hiérarchie très marquée à l'intérieur. Là, on est 12 et il n'y a pas d'hiérarchie, c'est-à-dire que chacun doit être actif et réactif. Et finalement, chacun a ses responsabilités, propose, et c'est en fait c'est cette alchimie qui fait qu'on arrive à jouer ensemble, à se retrouver sur des œuvres.
C'est la première fois que vous jouez tous ensemble. C'est une formation spéciale Malzieu.
Alors, pour la plupart. On se connaît quand même bien et on a l'habitude de jouer ensemble dans d'autres formations dans l'année, à Paris surtout. Mais disons que oui, enfin en tout cas, c'est une formation qui est créée à l'occasion pour le Malzieu, même si on se connaît vraiment bien.
Et vous avez l'habitude, entre guillemets, de jouer des si petites formes, parce qu'on va parler d'orchestre symphonique, etc. Vous avez l'habitude de jouer à 12?
Alors, comme disait Hélène, c'est une forme assez particulière parce que tous les instruments sont représentés. Donc, c'est comme un orchestre symphonique, mais en plus petit. Et sur des œuvres qui sont assez ambitieuses, qui sont des grosses œuvres du répertoire. Donc, on va dire qu'on n'est pas obligatoirement habitué. Donc, il y a vraiment un travail à faire, comme disait Fabien, sur l'écoute, sur aussi notre son. On ne peut pas jouer comme si on avait 40 ou 50 musiciens autour de soi. Donc il y a vraiment tout un travail à faire de rééquilibrer le volume sonore, nos attaques, notre manière de jouer pour réussir à créer quelque chose le plus homogène possible.
Ah, parce que ça, c'est effectivement entre guillemets une contrainte voilà, finalement de réadapter. Mais quelle peut être la marge d'interprétation aussi quand on s'attaque à une œuvre voilà, assez importante, assez connue du répertoire classique, comment peut-être ne pas trop respecter, on va dire, aussi la composition en elle-même.
Moi, je rebondirai juste par rapport à votre question et au fait que ce soir, ce qui nous intéressait, c'est qu'on n'a pas de chef, et c'est un peu une volonté aussi de cette formation de jouer à 12. Et ça nous tenait. On avait vraiment envie de confier aussi les axes d'interprétation, même si c'est très collégial et tout le monde participe. Et voilà, la venue de Fabien, qui, en tant que violon solo, porte, en tout cas. Mène toute la soirée. Donc c'était un peu, voilà, au niveau de la direction artistique, une volonté de... Voilà, et merci Fabien d'avoir accepté cette mission, mais voilà, d'avoir cette expérience qu'il a, très riche de violon solo, et de pouvoir, voilà, nous guider dans ce voyage très romantique et de cette spécificité.
Ouais, donc vous êtes imposé un petit peu ce challenge-là aussi, quoi.
On s'est imposé, non, mais en tout cas, on s'est donné on s'est donné ce challenge, et moi, en tant que violoniste, ça me tenait à cœur, en tout cas, de proposer ce challenge-là à Fabien, et c'était vraiment important, en tout cas.
Alors, il me semble aussi, après, au travers notamment des ateliers, hein, parfois, que, en fait, vous êtes parfois amené peut-être à faire des duos, si je ne me trompe pas, vraiment, après, là encore plus réduit, qu'est-ce qui peut-être vous touche, je ne sais pas, hein, qui voudra répondre, mais en tant que musicien, de jouer, alors justement, on disait, sur des gros orchestres vraiment assez massifs, ou encore, ou alors, justement, des choses un petit peu plus intimistes.
La musique de chambre, c'est intéressant parce que c'est vraiment un partage qui est on est tout de suite plongé dans le partage. Ça veut dire qu'on peut pas se cacher. Il y a vraiment un échange qui se fait, et on peut aussi prendre le temps d'aller beaucoup plus loin, parce que quand on travaille avec tout un orchestre, on peut pas obligatoirement, il faut être efficace. Alors que là, quand on est déjà dans une formation comme un duo ou un trio, on peut déjà prendre le temps d'aller plus loin. Et puis c'est assez agréable parce que c'est plus pas fluide, parce qu'un orchestre est fluide aussi, mais c'est plus léger, je veux dire, voilà, on peut se déplacer, ça peut être un peu plus virevoltant, un peu plus animé, donc c'est ça qui peut être intéressant dans
puis,
cette formation.
On existe plus aussi en tant qu'individu.
Individu.
Individu,
voilà.
Individu.
Non, mais contrairement à l'orchestre où c'est le groupe qui prime, enfin le collectif en tout cas, voilà. On est tous là au service du groupe. Là aussi, mais quand même, il y a plus d'expression personnelle de chacun, quoi. C'est intéressant.
Justement, dans un grand orchestre, en fait, le rôle du chef d'orchestre, ça va être, voilà, de rendre cohérent un grand ensemble,
de
en fait, comme ça.
Tout le monde, ouais. Oui, bien sûr. Voilà, et nous, notre rôle, c'est de le suivre, de suivre en tout cas ses choix et ses intentions. Alors que là, comme disait Simon, c'est un parti pris de ne pas en avoir, et donc on a plus de liberté pour tout ce qui est l'interprétation et. Voilà.
Alors, j'ai peut-être une question cette fois, je ne sais pas si on peut dire un petit peu plus technique ou même théorique, c'est un peu les deux. C'est un des sujets, un des ateliers, le continuo. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer ça brièvement?
Tout le monde recule.
Un instrument grave comme Benjamin.
La minute du professeur solfège. Je pense que Simon, tu peux nous parler un petit peu du continuo parce que toi, tu as fait des études.
Non, mais de manière assez succincte, le continu, c'est vraiment une forme d'accompagnement, en tout cas à l'époque baroque, par un groupe d'instrumentistes ou un instrument un petit peu référent. Le clavecin est un peu l'instrument qui est le plus à même de pouvoir faire ce rôle-là. C'est une forme d'accompagnement d'une mélodie où l'harmonie est extrêmement présente et où l'interprète doit vraiment enrichir la mélodie d'une harmonie spécifique par rapport au style d'un compositeur. Voilà, au Malzieu, on n'a pas fait venir de clavecin, on a fait venir de la harpe, on a fait ce choix-là, donc on fait le continu à la harpe, mais après vous avez des instruments complètement comme le théorbe ou la guitare baroque qui peuvent faire office de continuo. Donc là, ça sera Vincent qui va faire le continuo demain soir, et pareil sur la soirée théâtre où il y a pas mal de musique baroque.
D'accord. Alors peut-être une question aussi assez personnelle que je me posais. C'est vrai que dans les
la température monte au Malzieu.
Voilà, c'est juste parce que je fais de la guitare électrique, c'est tout. Donc voilà. Quelle peut être la place d'un instrument comme ça? En fait, une guitare, parfois, on peut dire peut-être que c'est un instrument un petit peu plus faux entre guillemets, d'où le par exemple les frettes, le fait que ce soit un petit peu comme ça découpé en fait le manche. Comparé par exemple à un violon ou plein d'autres instruments, on n'en retrouve pas tellement que ça en fait dans la musique classique.
même si certains ont essayé, notamment Piazzolla, je crois, sur certaines de ses œuvres, d'intégrer des instruments comme ça.
C'est surtout une question, pour la guitare, en tout cas, au sein de la musique classique romantique, on va dire, c'est surtout une question de puissance sonore, en fait, beaucoup. C'est-à-dire que c'est très difficile d'intégrer une guitare au sein d'un orchestre parce qu'on ne l'entendrait pas. Déjà, la harpe, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un instrument qui est très beau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui, pour parler de la guitare acoustique, hein, évidemment, qui n'a pas une grande projection. Donc, souvent, elle est utilisée plutôt en musique de chambre, en petit ensemble, plus que dans un orchestre. Mais il existe des guitaristes qui jouent des concertos avec orchestre. Souvent, ils sont amplifiés quand même, mais... Et je pense que les compositeurs n'ont pas trop écrit, justement, parce que c'est très difficile de trouver l'équilibre, en fait, au sein d'un orchestre.
Oui. Alors, je ne sais pas si... voilà, c'est vrai qu'on approche malheureusement déjà...
On est un peu pris par le temps. Du coup, bah, on va vous remercier.
Merci à vous, les artistes
qui sont venus là. Et on va continuer rapidement avec François et Ghislain, qui sont donc des bénévoles du festival. Depuis quelques années maintenant, il me semble.
Depuis plusieurs années, et on les remercie toute l'année quand on prépare le festival, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire.
Parce que les bénévoles sont investis aussi le reste de l'année.
Enfin, c'est des amis, donc on les voit pas qu'au festival, heureusement. Et on prépare avec eux tout l'aspect. Vous savez, être directeur artistique, c'est pas juste faire la programmation, et c'est tout organiser aussi, faire en sorte que les artistes soient bien accueillis, que tout se passe bien. Et du coup, on est beaucoup en contact parce qu'ils ont des expériences chacun, et chaque année, il nous faut un débrief de ce qu'il faut améliorer. Donc oui, on parle beaucoup de ça dans l'année. Oui.
Très bien. Donc, Ghislain, François, comment... alors, est-ce que c'est parce que vous étiez ami avec Simon que vous êtes arrivé, ou est-ce que vous êtes devenu ami après et du coup, c'est autre chose qui vous a donné envie d'intégrer le projet ?
Eh ben, je dirais les deux.
Ouais.
Je suis un ami de Damien Fourchy, un des premiers directeurs du festival, et puis ami de Simon aussi depuis quelques années. On s'est rencontré avec François, ça fait maintenant 3 ans.
C'est ça, exactement. Voilà. Puisque moi, je suis ami avec Simon, je le connais par ailleurs sur d'autres sphères musicales. Et puis, voilà, on est devenus amis au fur et à mesure des rencontres. Et puis, aujourd'hui, quand il m'a parlé du Malzieu, je fais oui, évidemment, je viens. Et voilà, depuis, je suis venu une fois et je reviens chaque année, évidemment.
Donc, ça fait plusieurs années que vous êtes là tous les deux.
Oui.
Très bien.
Et du coup, voilà, on a vraiment appris tous les deux, en tout cas, à se connaître,
à s'apprécier,
puis à travailler ensemble, parce que pour le coup, il y a plein de choses à faire pour que ça se passe bien pour les musiciens, pour l'organisation, pour aussi alléger les deux directeurs qui ont tout organisé, effectivement, mais leur dire, vous pouvez vous enlever ça de la tête et puis vous concentrer sur la musique aussi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui...
Des petites choses, justement, que vous faites au cours de ces quelques jours.
Ouais.
Beaucoup de choses, des grandes choses.
Ouais,
depuis le matin, mais déjà il y a les repas à organiser pour toute la troupe, hein, donc et puis le montage des scènes, on aide aussi le régisseur pour faire le montage son et lumière.
Exactement.
Voilà, et puis
le matin, préparer les petits déjeuners, aller chercher le pain et les desserts à la boulangerie au Malzieu, aller chercher l'entrée à la charcuterie au Malzieu, aller chercher le plat.
Mais là vous en voyez deux, mais il y a toute une équipe.
Mais voilà, après, c'est derrière.
Justement, c'est combien de bénévoles pour des rencontres ?
Moi, je dirais que entre les amis de notre côté et les bénévoles du Malzieu, on doit être à peu près une vingtaine de bénévoles au total, qui sont toute la semaine actifs du matin à 7h au soir à 23h. Donc c'est assez lourd. Et c'est assez beau de voir que ces gens viennent et aident. Pour nous, en tant que directeurs, c'est touchant et ça nous repose aussi beaucoup pour se concentrer sur l'artistique.
Parce que là, voilà, nous, on représente plutôt le côté amical, finalement, les amis des directeurs, Damien, Simon. Mais c'est vrai qu'il y a tous les bénévoles qui sont ici du Malzieu, qui sont là à l'année et qui sont là au quotidien pour réfléchir en amont sur comment on peut installer les scènes, comment on peut loger les artistes, comment on peut faire que tout se passe bien au moment donné. Et ça, c'est vrai que c'est pas rien et ça fait chaud au cœur parce que
là il y a des bénévoles du Malzieu qui sont en train de monter les palissades
ils sont là.
C'est pour ça qu'ils peuvent pas être là notamment par exemple et on est bien content d'être à la fraîche mais...
Alors, on les encourage beaucoup avec le
la chaleur.
Je sais pas si on a beaucoup temps encore pour parler de ça. C'est vrai que le bénévolat c'est quelque chose de très important. Je sais pas aussi peut-être pour conclure on va
reparler un petit peu quand même de la programmation hein, qu'il y a sur ce festival. Alors notamment ce soir, on le rappelle, ce sera
concert symphonique transcrit pour un ensemble de 12 musiciens, voyage romantique avec de la musique de Schubert, l'ouverture de Rosamonde, l'inachevée, la symphonie inachevée et en deuxième partie la sérénade de Brahms, œuvre de jeunesse. À l'église à 20h30. Demain, nous découvrons Bach, qui sera présenté par Benjamin, qu'on a entendu tout à l'heure, et Benoît, le contrebassiste. Nous passons au théâtre sur la place des Ursulines à 21h, vendredi, pour deux spectacles, Le Petit Poucet et La Fille du Pirate, avec la Commedia dell'Arte, et comme vous a décrit tout à l'heure Stéphane. Et c'est vraiment, enfin, voilà, c'est un moment très, très, très riche, parce que ça ouvre énormément l'imaginaire, en tout cas, de pouvoir assister à ce genre de spectacle. Et l'Amérique. Samedi soir avec une création vidéo.
Voilà, on n'oublie pas. C'est vrai, on peut citer quelques noms comme ça qu'on retrouvera un samedi. Alors on a dit Piazzolla notamment.
On a Piazzolla, on a Bernstein, la musique de Bernstein. On a un thème très connu de Chaplin qui s'appelle Smile. On aura de la musique des thèmes de Thelonious Monk. On aura le quatuor de Dvorak américain. C'est-à-dire qu'on part de, on ouvre la soirée avec le quatuor à cordes de Dvorak et l'américain. Et après on ouvre sur d'autres sphères. La venue de Grégory Daltin nous est chère parce que c'est un artiste fidèle, c'est un ami. Et c'est l'accordéon, le bandoneon. Et c'est vraiment cette ouverture-là aussi stylistique.
Très bien. Et comment est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour venir ?
Alors, il restera des places. Okay. Même si le succès est au rendez-vous, il restera des places et vous pouvez venir, je pense que c'est trois quarts d'heure avant.
Oui, trois quarts d'heure avant.
Trois quarts d'heure avant à la billetterie. Voilà, on essaye de faire des tarifs abordables. Voilà, donc n'hésitez pas à venir en avance pour prendre vos places.
Et du coup, la billetterie, c'est sur le lieu du spectacle
la
directement.
La billetterie sur place, voilà.
D'accord.
La billetterie sur place.
À l'église pour les deux premiers soirs.
Et sur la place.
Place des Ursulines, les deux. Ah,
eh bien, merci beaucoup pour
merci
cette émission.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et on se retrouve, nous, sur 48FM en direct du festivalier.
Oui, voilà, dans quelques jours.
Voilà. Et puis, voilà, on se quitte donc avec un morceau de...
Justement, avec Grégory Daltin, un air argentin, Pinchinguinha, de notre duo. Donc, voilà. Bonne écoute et venez découvrir les rencontres musicales du Malzieu.
Merci à tous.
Merci.
Merci.
Merci.